Bonjour, l'onde curieuse poursuit aujourd'hui la trilogie littéraire proposée en cette fin d'année par Olivier Horry. Après le roman Mobilette de Frédéric Ploussard présenté le 7 novembre dernier, puis de Sous la dure écorce, le roman de Louise Pommeret, c'était la semaine dernière, et bien place en ce mardi 13 décembre au livre Passage et présence de Simone Veil, État des lieux, signé Jean-Marc Guitti, docteur en philosophie, un ouvrage qui tente de reconstituer le chemin intellectuel et spirituel de cette femme figure philosophique du siècle passé. On retrouvera Olivier et son invité après quelques infos et le choix musical de l'onde curieuse. La journée internationale des migrants, ce sera ce dimanche 18 décembre. Et alors que se profile une énième loi sur l'immigration, dite loi Darmanin, le réseau Éducation sans frontières Ardèche appelle à se mobiliser ce dimanche à Privas. Pour RESF, le monde aujourd'hui incarné par le ministre Darmanin chasse, agresse, expulse, discrimine et surexploite des hommes et des femmes sur la base de leur origine, de leur couleur de peau, de leur nationalité ou encore de leur religion. Un monde qui brise les solidarités, développe les inégalités et porte la guerre et le fascisme, toujours selon RESF Ardèche, qui appelle à mettre fin par la mobilisation à ces tristes réalités. À Privas, dimanche 18 décembre, donc à 18h30, devant la préfecture, le rassemblement se fera contre la loi immigration de Darmanin, contre la double peine et les centres de rétention, contre la criminalisation de la solidarité. Par contre, ce sera pour la régularisation des sans-papiers, pour la liberté de circulation et pour l'égalité des droits. Ce rassemblement rendra également mémoire aux dizaines de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants morts sur les routes et dans les flots de la migration. Jean Zay, figure du Front populaire, est à l'honneur d'une nouvelle conférence proposée demain par le Carrefour laïque d'Aubenas, une conférence de Guilain Chevrier, docteur en histoire, qui l'intitule « Jean Zay, figure héroïque d'un Front populaire du progrès et de la liberté ». Jean Zay, ministre de l'Éducation sous le Front populaire, assassiné par la milice de Vichy. Le Carrefour laïque vous invite à découvrir ou redécouvrir cet homme de valeur à l'occasion de cette conférence. Elle aura lieu demain à la salle Le Bourneau à Aubenas à 20h. La participation aux frais est libre, mais souhaitable. Débat et échange demain soir avec les rencontres citoyennes de Joyeuse. Ce rendez-vous aura pour thème le goût de la science, comment et pourquoi le partager. Un vaste thème qui doit permettre d'aborder des questions telles pourquoi les citoyens font parfois davantage confiance à leur croyance qu'à la science, comment vulgariser la connaissance scientifique, ou encore pourquoi certaines recherches ont suscité intérêt ou désintérêt, adhésion ou rejet de la société. Autant de points qui pourront être soulevés demain dès 20h30, salle de la Grand Fond, c'est à Joyeuse et en accès libre. La science qui nous permet par exemple de mieux observer les déperditions thermiques de nos logements et de comprendre comment y remédier. Des sujets en plein dans le mille de l'actualité, froid et crise énergétique. Aujourd'hui à 18h, Renaud Futé propose ainsi une conférence à Planzol sur le thème de la rénovation thermique des logements. C'est en accès libre à la salle polyvalente du village, mais après inscription au 04 75 35 87 34. Et si vous manquez ce rendez-vous, notez-en deux autres, toujours avec Renaud Futé. Le premier, c'est un webinaire programmé ce jeudi 15 décembre à 20h. Le thème « Comprendre le contexte énergétique de cet hiver et l'importance de la rénovation ». Des coupures d'électricité sont annoncées possibles cet hiver, alors comment en est-on arrivé là? Comment la sécurité d'approvisionnement est-elle assurée? Comment fonctionne ce que l'on appelle le bouclier tarifaire? Demain, quelles contraintes aurons-nous sur notre approvisionnement énergétique en France? Eh bien, rendez-vous jeudi dès 20h pour avoir des réponses à ces questions à l'occasion de ce webinaire. Il faut s'inscrire par contre sur le site alec07.org. Alec07.org, vous trouverez facilement ce webinaire. Deuxième rendez-vous, samedi après-midi, 17 décembre. Nous sommes au Vence, au programme cette fois la visite d'une rénovation performante. Un temps de visite et d'échange au cœur d'un projet de rénovation globale d'une maison, en présence du propriétaire, de professionnels intervenus sur le chantier et du conseiller Réno Futé. Ce sera samedi après-midi, 14h30-17h30. Là encore, il faut s'inscrire sur le site alec07.org. Ce n'est pas encore les vacances, mais le jeune public a rendez-vous demain après-midi, salle Le Bourneau, à Aubenas, pour un ciné-concert à voir à partir de 3 ans. C'est la compagnie SZ qui programme Komaneko, un film d'animation réalisé en stop-motion en 2006 par le japonais Tsuneo Goda. 5€ pour les enfants, 8€ pour les adultes. C'est demain, salle Le Bourneau, 16h, à Aubenas. Pensez à réserver votre place. Terre et Humanisme organise demain son marché de Noël au siège de l'association basée à La Blachère. Et ce sera en intérieur, rassurez-vous. Rendez-vous en après-midi, 15h-18h, pour découvrir des produits locaux, de l'artisanat et même de la librairie solidaire. À Valgorge, le centre socioculturel Le Ricochet lui propose un après-midi Noël ensemble. 14h-18h, demain, Valgorge, salle de la Pourrette. De 14h à 16h, il y aura des stands de sculpture sur ballon, des ateliers manuels, mais aussi un parcours de motricité. Goûter à 16h et spectacle à 17h avec jongleur d'illusions. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. Féerie de Noël également demain au Vence avec le centre socio-culturel Revivre qui propose un après-midi conté. Ce sera en compagnie d'Éric Derien à partir de 15h. Un rendez-vous ouvert à tous. Et puis la chorale Scola Cantarelle, le chœur d'enfants et d'adultes de La Blachère, va donner un concert de Noël demain. C'est à 18h30 à la basilique Notre-Dame de Bon Secours, donc à La Blachère. Un autre rendez-vous culturel pour la fin de semaine, cette fois à Saint-Cernin, le théâtre de la Servante qui présente Tête au Carré, vendredi comme samedi à 20h30, un spectacle écrit par Bernard Duflo, mis en scène par Laurent Bonal et interprété par Francisco Cabello, Bruno Martins et Laurent Bonal. Tête au Carré vous entraîne dans la tête d'un boxeur qui patiente dans un vestiaire avant d'être appelé pour un combat. Sa tête est chamboulée, il ne sait pas trop où il en est. Un théâtre tragicomique à découvrir à l'espace culturel de Saint-Cernin, vendredi comme samedi à 20h30. Et puisque l'onde curieule, tiens, j'ai jamais fait celle-ci, parce qu'avant on avait ce qu'on appelait l'oreille indiscrète, voilà, et l'onde curieuse à présent, voilà. Elle va parler dans quelques instants à nouveau de littérature et même de philosophie aujourd'hui. Eh bien, vous noterez le rendez-vous de la médiathèque de Privas pour ce soir. Elle vous invite à rencontrer Claudie Hunzinger pour la sortie de son livre « Un chien à ma table » publié aux éditions Grasset, prix Femina 2002. C'est ce soir et c'est à 20h30. Voilà, avant de retrouver nos invités, eh bien, on passe comme d'habitude par le choix musical avec la philosophie selon Henri. C'est signé Alexandre Varlet, c'est paru au XXe siècle, c'était en 1998, avec son album « Naïf comme le couteau ». Et ensuite, on retrouve l'entretien d'Olivier Horry avec Jean-Marc Guitti autour de son ouvrage « Passage et présence » de Simone Veil, « État des lieux ». Thank you.
C'est une team utopie que de vouloir mettre les points sur les i. Le temps nous manquera, nous enterrera le sable du Sahara. Dingue le potentiel que l'on a en soi, dingue le potentiel que l'on a en soi, dingue l'infini dont on n'use pas, dingue l'infini dont on n'use pas, barba papa.
Alexandre Varlet sur Fréquence 7, Alexandre Varlet dans l'onde curieuse avec la philosophie selon Henri. Allez, on parle encore de philo avec nos deux invités du jour. Je laisse Olivier Horry présenter Jean-Marc Guitti.
Pour l'onde curieuse, nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Guitti. Jean-Marc Guitti, philosophe au Puy et à Nice également. Jean-Marc Guitti qui a publié Passage et présence de Simone Veil, état des lieux aux éditions Quimet. Ce livre, Passage et présence de Simone Veil, est un livre qui vaut pour son contenu encyclopédique. Naturellement, nous apprenons énormément de choses sur Simone Veil, sa vie et son œuvre, naturellement, mais c'est un livre qui vaut aussi pour sa méthode, d'une certaine manière, dans la mesure où la pensée de Simone Veil est analysée ou partagée, on va dire peut-être, à partir des lieux où elle est passée, où elle a vécu. Et on cherche à savoir si ces lieux, leur nature, enfin, etc., a pu inspirer sa pensée. Jean-Marc Guitti, bonjour.
Très content. Bonjour, bonjour.
Alors, très content de vous avoir auprès de nous et pour nos auditeurs. J'ai l'habitude d'interviewer des personnalités avec un petit abécédaire. A, B, C, D. Le but, c'est d'apprendre la langue de la personne avec qui je parle. Le but, c'est peut-être de créer le dictionnaire de la personne avec qui je parle. Dictionnaire, je l'espère, amical, naturellement. A, j'ai choisi le mot accéder. C'est vrai que votre livre est un livre qui parle beaucoup d'itinéraires, de déplacements. Moi, je voulais, indépendamment du livre, mais très provisoirement indépendamment du livre, savoir pour vous, personnellement, comment s'était produit dans votre biographie, l'accès à la philosophie que vous avez ensuite enseigné et pratiqué ô combien.
Alors, je ne suis pas entré en philosophie avec Simone Veil, puisque à l'université, on nous en a guère parlé. Il y a eu d'autres portes, si je puis dire. J'ai commencé par des études de lettres et j'ai ensuite accédé à la philosophie avec dans une démarche qui consistait finalement à vouloir prendre un petit peu de recul. Ben, je pense que c'est une première motivation par rapport à des discours ambiants dans lesquels on se trouve pris à toutes les époques, prendre un recul dans le temps, parce que avec la philosophie on est dans le temps long, on peut étudier Platon comme s'il avait écrit hier, voilà. Et puis le recul, c'est aussi l'esprit critique. Qui aujourd'hui est en crise, il faut bien le reconnaître. Et la critique, on croit souvent que c'est pour détruire, même pour prendre un mot plus philosophique, déconstruire. Pas forcément d'ailleurs, en réalité. La critique, c'est nécessaire pour acquérir une certaine liberté. Je crois que la philosophie, c'est d'abord une liberté d'esprit. Et l'esprit dans ses cheminements, ses méthodes, est un peu plus contraint, me semble-t-il, dans d'autres disciplines. Alors qu'en philosophie, nous avons cette chance de pouvoir accéder à une forme de liberté qui donne cet esprit critique, mais au fond, c'est pour pouvoir mieux comprendre et peut-être aussi pour être plus proche, car la critique, ça permet de s'approcher. Elle n'est pas dénuée de sympathie et d'empathie même. Et ce thème de l'approche est aussi important. Là, parmi ceux qui ont été au seuil de mon entrée en philosophie, je puis dire, il y a eu Heidegger et la phénoménologie. Il y a vraiment de très belles pages Heidegger sur l'approche. On est beaucoup plus loin des êtres, qu'ils soient des personnes ou des paysages ou des livres, hein, quand on ne fait pas preuve d'esprit critique à leur égard quand on en fait preuve. La critique est aussi un mode d'approche et de compréhension.
Oui, complètement. Et je crois d'ailleurs que Simone Veil en est d'une parfaite illustration. Bon, elle est rentrée en philosophie par la voie un peu royale, les enseignements d'Alain, n'est-ce pas, au lycée, et puis Henri IV, et puis ensuite dans Malsup, etc. Mais gardant un pied dans la science, etc., et ayant effectivement quasi naturellement une très très grande méfiance à l'égard de tous les discours. Elle est très critique du libéralisme et du capitalisme, elle est très critique du marxisme évidemment et du communisme. Est-ce que Simone Veil a pour vous été une maîtresse en philosophie de ce point de vue-là?
Oui, donc un petit peu plus tard, mais j'ai tout de suite été séduit par sa grande liberté d'esprit, justement. Alors, il y avait un caractère chez Simone Veil, c'est que elle était un peu, elle aimait beaucoup la contradiction. Elle était excessive, mais un excès chez elle pouvait être suivi d'un excès inverse, et d'une certaine manière, ça rééquilibrait les choses. Je pense que quand on est excessif, c'est pour pouvoir se libérer d'une emprise. Par exemple, son maître Alain, qu'elle a beaucoup admiré, eh bien, elle a pris des libertés à son égard. Marx, qui lui a beaucoup appris, elle avait besoin, à un moment, tout en gardant évidemment ce qu'elle avait appris de Marx, elle avait besoin s'en différencier, de se distancier, et quelquefois on doit le faire avec certains excès. À la fin de sa vie, lorsqu'elle s'est rapprochée du Christ, elle a eu aussi des paroles parfois excessives contre l'Église, parce qu'elle ne voulait pas être prise dans une institution.
Ah oui, tout à fait. Et alors, moi, je vous parlais donc d'accès à la philosophie. Ça sous-entend que je supposais que la philosophie est une sorte de lieu dans lequel on arrive. Et ce lieu, il est peuplé. Et effectivement, il est peuplé, on l'a déjà vu, eh bien d'Alain, également de Simone Veil. Dans quel lieu est-ce qu'on peut philosopher? Vous animez et vous présidez une association au Puy où on peut philosopher. Vous avez philosophé et vous philosophez à la radio. Y a-t-il des lieux comme ça philosophiques, des lieux de la pratique philosophique que vous affectionnez particulièrement?
Alors notre maître à tous, c'est Socrate, qui est atopique, qui n'est à sa place nulle part.
Et partout du coup.
Et du coup, comme il intervient un peu partout, et surtout là où on ne l'attend pas et là où on n'en veut pas, eh bien, ça lui permet d'habiter la cité. C'est le mode philosophique pour habiter la cité, c'est quand même de déranger. Il faut donner un sens positif à ce mot. Non pas chez les spécialistes de la philosophie aujourd'hui, le monde évolue de telle sorte qu'on parle souvent à ceux qui pensent comme nous et alors ça fait des vases clos, tout ça. La philosophie, c'est le contraire, c'est aller sur le terrain de l'autre pour l'amener à expliciter un peu ce qu'il est, ce qu'il a à nous dire, et après on peut, l'ayant connu, se déterminer, se positionner par rapport à lui. Alors, par exemple, vous parliez de l'association de philosophie. Oui, une association de philosophie, c'est un écart, parce que dans l'association, vous avez tout le côté social, et puis la philosophie, ça a quand même quelque chose d'asocial, parce que c'est la solitude, l'étude solitaire, parce que aussi, c'est le côté critique, corrosif, et donc il faut faire tenir ensemble le social et la sociale, le collectif et le solitaire.
Mais c'est vrai qu'inévitablement, je pense à Socrate, qui est le temps, la mouche piquante d'Athènes, et qui, dans cette position-là, est à la fois effectivement éloigné de ses concitoyens, mais en même temps le plus proche, d'une certaine manière, de ses concitoyens. Il fait vraiment attention à eux par ce moyen-là.
Oui, il les prend au sérieux, en somme. En allant chercher la vérité qui est en eux. Et quelquefois, il est déçu, lui le premier, parce que il manque quelque chose à cette recherche de la vérité. Et s'il le dit, il dérange, il suscite même certaines haines. Je crois que l'anti-intellectualisme traverse toute l'histoire de la philosophie. Oui. C'est-à-dire que le philosophe est quelqu'un qui est rejeté, qui dérange, il doit l'être.
Mais oui, j'ai pu expérimenter ça lors d'une interview d'universitaire de Genève il n'y a pas si longtemps. Les sciences humaines méritent parfois d'être un petit peu piquées par le philosophe, me semble-t-il. Je poursuis mon abécédaire avec, à la lettre B, le mot bifurcation. C'est vrai que dans votre livre, vous décrivez, nous venons de parler de l'accès à la philosophie, mais dans votre livre, vous décrivez les pérégrinations de Simone Veil à travers la France, ses différents postes de professeur, par exemple. Elle va également à l'usine, chez un agriculteur, Ardéchois, Gustave Thibon. Elle va à Londres, elle va en Espagne pendant la guerre, etc. Elle bouge énormément et ça détermine une espèce de parcours sur une carte, comme ça. Et sur cette carte, moi, je m'aperçois qu'il y a des croisements, justement, des bifurcations, c'est-à-dire des lieux où il faut choisir d'aller ailleurs, ou choisir d'ailleurs de pas aller ailleurs, de rester. Simone Veil a beaucoup choisi d'aller ailleurs. Je me demandais, et on en parlait hors antenne, mais c'est vrai que j'ai une photo de classe en terminale. Elle a été prise dans le cours de philosophie. Et au tableau, visiblement, c'est un cours sur la liberté. Et au tableau, il y a un éventail de flèches comme ça. Il devait nous expliquer que être libre, c'était quand même devoir choisir entre un certain nombre de possibilités. Est-ce que nous sommes libres de choisir de nouveaux chemins dans notre existence, ou est-ce qu'il y a des choses qui pèsent sur nos choix? Enfin voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de...
La question de l'orientation, comment s'orienter dans la vie, est une grande question de la philosophie. Comment prenons-nous des décisions? On dit en général « j'ai décidé ». Mais peut-être faudrait être un peu plus modeste avec cette liberté du jeu. Il y a des décisions qui se prennent, et comment elles se construisent et comment elles s'élaborent. Une décision très étonnante dans la vie de Simone Veil, c'est quand elle souhaite arrêter d'enseigner pour aller travailler en usine. C'est une décision qui interroge sur ses véritables motivations. Parce que on peut donner des motivations tout à fait, je veux dire, rationnelles. Elle a voulu mieux connaître le monde ouvrier. Elle pensait qu'il faut faire l'expérience pour parler d'une chose. Mais on sent bien que par en dessous, il y a des motivations plus obscures. Et qui l'amène à faire ce choix, qui d'ailleurs sera très provisoire, puisqu'elle ne pourra pas travailler longtemps en usine.
C'est très très dur, les conditions de travail à l'usine Renault, par exemple, c'est effroyable.
Oui, et surtout pour elle, qui n'avait ni l'expérience, ni la santé, qui venait d'un tout autre milieu. C'est une décision qui l'a mise vraiment en difficulté et qui l'a abîmée. Ouais. Pour ce qui est de l'évolution, parce que moi je pense que la philosophie c'est une histoire, mais que cette histoire elle ne se fait pas quand on passe d'un philosophe d'une génération à un philosophe de la génération suivante. L'évolution elle se fait à l'intérieur de chaque œuvre philosophique. L'histoire de la philosophie c'est l'histoire de l'évolution interne d'un philosophe. Oui. Alors quelquefois on dit il y a eu un tournant dans l'œuvre de celui-ci oui. ou de celui-là. On parlera du premier Merleau-Ponty et du deuxième Merleau-Ponty.
Le premier Wittgenstein.
Voilà. Et pour Simone Veil, habituellement on dit que il y a d'abord la philosophe syndicaliste de gauche, d'extrême gauche, proche de l'anarchisme, etc. Et ensuite il y a la chrétienne, et on parle de conversion. Mais en réalité, pour bien répondre à votre question de la bifurcation, c'est plus complexe, parce que il y a un changement effectivement, mais tout est déjà là. Au départ, je crois que les vies, les biographies, ne font que développer les âmes. Ouais. Et les âmes ont quelque chose de donné au départ. On arrive, c'est très curieux, au monde avec un domaine spirituel qui est le nôtre, qui est très singulier. Évidemment, on va prendre tout ce qui relève du savoir d'une époque, on va intérioriser notre éducation, etc. Mais ça n'enlève pas ce mystère de la singularité d'une âme. Et chez Simone Veil, il y avait déjà, dès l'enfance, dès l'adolescence, un besoin d'absolu. Il y avait déjà cette compassion qui l'amenait à vivre en sympathie avec les plus malheureux. On pourrait dire qu'elle était chrétienne déjà, sans le savoir, quand elle était athée. Et quand elle est, si on la prend à la fin de sa vie, on ne peut pas dire qu'elle se soit réfugiée dans une sorte de mysticisme chrétien.
Puis elle a refusé le baptême.
Elle a refusé le baptême, mais elle aurait pu développer, je dirais, sa vie mystique. Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait au dernier moment? Elle va essayer d'entrer dans le combat en allant auprès de la Florence libre à Londres. Et donc, elle reste complètement dans l'action politique. Donc, vous voyez, dans un premier regard, ça a l'air simple. Il y a des infléchissements, mais quand on y regarde de mieux, il y a quand même cette continuité de l'âme. Alors on passe notre vie à découvrir notre domaine intérieur. On en prend déjà conscience à l'adolescence. Je pense que l'adolescence, c'est l'âge où les choses se mettent en place. Mais après, je veux dire qu'on change, mais on change sur place. Ouais. Et donc voilà pour la bifurcation, ça n'est jamais aussi simple que entre deux flèches, on va s'engager dans une et laisser tomber l'autre. Ouais.
Donc on se constitue pendant toute son existence en subissant ou en s'infléchissant soi-même. Et puis, on peut tout de même pas vivre seul. Ce parcours d'ailleurs intérieur et personnel, il est à l'intérieur d'un milieu. C'est pour ça que j'avais choisi C comme collectif. C'est-à-dire que vous décrivez très bien cette croissance intérieure ou cette évolution intérieure. Elle se fait parmi les autres. Alors les autres, est-ce que les groupes, que ce soit un parti, un syndicat, une église, on a évoqué la question de la conversion de Simone Veil, etc. Ces groupes-là, ils sont là pour nous aliéner ou ils sont là pour nous donner de la force, ou les deux, ou aucun des deux, enfin je ne sais pas.
Oui, les autres. Dans mon parcours, j'ai été très, très marqué par la psychanalyse. Et donc, ce qu'elle nous a appris, c'est que les autres, ils sont déjà en nous. Ils sont là avant nous, ils sont en nous. Et nous venons déjà au sein d'un monde collectif. Et après, nous pouvons essayer de prendre à l'égard de ce collectif une certaine forme d'autonomie, mais pas pour verser et rester dans la solitude, parce que ce qui se forme en nous, si cette autonomie nous permet de nous former une pensée personnelle, ou un caractère qui nous appartient en propre, cette solitude est quand même la maturation d'une expression. On voit bien ça dans le Zarathoustra de Nietzsche, par exemple. Il retourne à la solitude et après il revient, il redescend vers les
annoncer,
hommes. Ouais. Bah, annoncer. C'est ce besoin d'expression qui nous porte nécessairement vers les autres, mais pas forcément pour s'intégrer et s'annuler. Il faut garder les deux.
Tout à fait. C'eût été un excellent thème, que j'avais prévu d'ailleurs, de notre discussion pour la suite. Malheureusement, comme je le dis toujours, le seul maître des horloges à la radio, c'est l'horloge elle-même. Et malheureusement, nous allons devoir nous quitter. Je suis un peu frustré, mais nous reprendrons peut-être un jour la conversation ailleurs et autrement. Jean-Marc Guitti, auteur donc de Passage et présence de Simone Veil, État des lieux aux éditions Quimet, merci infiniment d'être venu nous rendre visite pour deviser un petit peu avec nous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à Olivier Horry, merci à Jean-Marc Guitti pour ce troisième entretien. Il y en a eu deux précédents, vous pouvez les retrouver sur le replay de L'Onde Curieuse que vous retrouverez sur le site internet fréquence7.net. Le premier, c'était le roman Mobilette de Frédéric Ploussard à la date du 7 novembre. Et puis Dessous la dure écorce de Louise Pommeret. C'était la semaine dernière. Voilà, direction le replay si vous voulez tout réentendre, ainsi que ce rendez-vous, puisque certes, cette émission est proposée à 17h, mais si vous êtes à la fin de la rediffusion, il vous reste le replay. Les autres rendez-vous sur Fréquence 7 aujourd'hui, bien 15h, il y a toujours le Telex. Vous laissez votre message au 04 75 93 30 25. À 18h, Polémix et la voix off revient avec la suite de la série Au secours, et à 21h, la rediffusion de Metal Zone. À vous signaler que à partir de la semaine prochaine, et durant les deux semaines de vacances scolaires, et aussi les deux semaines de fêtes de fin d'année, eh bien, il n'y aura pas d'émission sur cette antenne. Toutes les émissions proposées reprendront le lundi 2 janvier prochain, donc ne cherchez pas la semaine prochaine l'onde curieuse, ne cherchez pas Polémique, c'est la voix off ou encore Metal Zone. Par contre, vous aurez encore une petite semaine pour laisser vos annonces sur le répondeur du Telex. Voilà, et puis jeudi, ce sera donc la dernière de l'année pour l'onde curieuse, avec au programme une rediffusion sortie de notre passage par les rencontres des cinémas d'Europe 2022. Nous reviendrons sur l'interview réalisée autour du film Les Pires, film qui était en sortie nationale la semaine dernière et qui arrive sur les écrans albenaciens, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Voilà, on parle de tout ça demain parce que c'est déjà la fin de l'onde curieuse. Je vous salue et vous dis à jeudi. Bye bye.